À 8h09 minutes, allons à Tokyo. Joindre Frédéric Daigle, journaliste sportif à la Presse canadienne. Bonjour, mon cher Frédéric.
Bonjour, messieurs, ça va bien?
Ben, ça va bien, toi-même?
Très bien, merci.
Et M. DeGrasse, va y allait bien aussi, il allait vite, en tout cas.
Oui, ben ça vient juste de se passer. Oui. Absolument. André DeGrasse qui a remporté sa vague de demi-finale en 19 secondes 73 centièmes. C'est un nouveau record canadien. Et c'est le meilleur temps qui a été réalisé dans les trois vagues de demi-finale aujourd'hui. Son compatriote Aaron Brown aussi a gagné sa vague en 19,99. Mais ça, alors les deux Canadiens vont se retrouver en finale.
Mais ça, ça a été très, très, très serré parce que le favori de l'épreuve, l'Américain Noah Lyles, menait avec quelques mètres à faire, mais il a levé le pied, il a pris ça un petit peu trop relax. Il y a eu une triple égalité à 19,99 lors de la deuxième ronde. Et finalement, on a donné la victoire au Canadien de 26 ans de Toronto, Aaron Brown.
Oui, puis il est suivi par un Namibien, je crois. Là, l'Américain est obligé d'aller au repêchage. Son temps va être assez bon pour lui permettre de se qualifier, mais disons que son coach va sûrement lui dire, lui rappeler de ne pas lever le pied aussitôt que ça la prochaine fois.
Il aurait gagné facilement. Honnêtement, il était en avance.
Ben oui.
Il a levé le pied tranquillement.
Il aurait pu tenir de reculons, là.
Ah ouais, puis il n'a même pas regardé à côté qui s'en venait. Et finalement, le Canadien Aaron Brown, écoute...
est passé comme une flèche à côté. Ouais.
Triple égalité, 19,99. Les commentateurs disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça dans une demi-finale du 200 mètres. Triple égalité. Mais au moins, bonne nouvelle dans tout ça, Frédéric, c'est qu'on aura deux Canadiens en finale du 200 mètres.
Mais DeGrasse, c'est lui qui avait gagné. Il avait eu l'argent, je pense.
La médaille d'argent. Oui, médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques. Oui,
parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Usain Bolt aussi qui courait
méchant,
en même temps
lui.
Que lui.
Oui,
il était pas pire.
Il avait de l'allure, oui.
Il était pas pire.
Et la finale, c'est quand?
C'est demain soir.
Oui. OK. Bon, on va lui laisser le temps
de récupérer.
De récupérer un petit peu.
Oui, on courut juste pendant 20 secondes.
Oui, c'est ça, exactement.
Un marathon, quand même, tu sais.
Facile,
c'est
tout le monde
peut faire ça. C'est le stress, c'est à cause du stress.
Tu n'as même pas besoin d'être en forme, tu cours juste 20 secondes. Je suis capable de courir 20 secondes.
Ouais.
Bon, c'est une blague, évidemment. Non, c'est ça le problème. Bon.
Frédéric, Andréanne Langlois a atteint la finale au K1 200 mètres et finalement a terminé 9e.
Ben oui, on en parlait hier, c'était un peu une épreuve bonbon pour les Canadiennes, le K1 200 mètres, parce qu'on se concentre surtout sur le K4 500 mètres. Alors elle et Michelle Russell s'étaient qualifiées pour les demi-finales. Michelle Russell ne s'est pas qualifiée pour la finale, mais Andréanne Langlois a terminé 9e et c'est 7 rangs de mieux qu'à Rio de Janeiro. Alors elle était très satisfaite de ce résultat-là. Et puis tout le monde peut pas finir sur le podium, mais c'est un excellent résultat pour Andréanne Langlois.
Elle a été excellente lors des qualifications, très rapide au départ. C'était vraiment très beau à voir.
C'est des 200 mètres en kayak, là, c'est très rapide, là, se court en 30 quelques secondes. Et puis les filles sont complètement, les gars aussi, là, mais les filles sont complètement brûlées au fil d'arrivée. C'est à 115% là, du début jusqu'à la fin.
Ouais.
Parlant de canoë-kayak, c'est l'entrée en scène de Laurence Vincent Lapointe ce soir. Plusieurs fois championne du monde, elle tente de remporter la première médaille d'or olympique en canoë.
Oui, parce que c'est la première fois que les femmes vont concourir en canoë aux Jeux olympiques. Il y avait les hommes jusqu'à Rio qui étaient seuls en canoë. Et puis là, en 2017, on a annoncé que le C1-200 et le C2-500 s'ajoutaient au programme olympique. Et Laurence Vincent Lapointe, elle a été 8 fois championne du monde en C1-200, puis 3 autres fois en C2-500, dont 2 fois avec sa partenaire l'Ontarienne Cathy Vincent, qui va être avec elle cette semaine. Et puis, les gens, le nom leur dit peut-être quelque chose. Laurence Vincent Lapointe, en 2019, a été suspendue pour dopage. Elle a été finalement blanchie là, presque un an plus tard, mais ça fait en sorte là, qu'elle a été une très longue période, non seulement sans pouvoir s'entraîner avec l'équipe nationale, mais c'était une persona non grata. Là. Personne dans l'équipe nationale pouvait lui parler, pouvait l'approcher, pouvait la conseiller parce qu'il risquait des sanctions elle aussi.
Ouais, ben on se souvient dans quelles circonstances c'est arrivé. Là. Elle avait été, il avait trouvé des produits dopants dans son sang, puis elle a été capable de démontrer que c'est pas elle qui s'était dopée, c'était son chum, son ex-chum.
Exact. son ex-conjoint qui l'avait contaminé littéralement avec là c'est des échanges de salive ou d'autres fluides corporels, mais on s'entend là que c'est rendu des traces infimes quand c'est quelqu'un d'autre qui te contamine comme ça, puis après ça pour pouvoir
Mais ça démontre que les tests sont très précis là, sont très pointus là.
Sont très précis. Mais ça, ce qui est dommage aussi, c'est dommage, je me prononcerai pas là-dessus, mais contrairement à une cour de justice, quand t'es trouvé coupable de dopage, il faut que tu te défendes. T'es pas innocent jusqu'à preuve du contraire, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et c'est ce bout-là que Laurence-Vincent Lapointe a trouvé très dur. Mm-hmm. Mentalement, elle a dit qu'elle a failli décrocher, qu'elle a failli tout abandonner. Alors évidemment, c'est une athlète là qu'on attend beaucoup, dont on parle depuis plusieurs années, et qui finalement aura la chance de briller là sous les réflecteurs là sous les projecteurs, parce que c'était supposé être la reine de ces deux épreuves là et puis là en raison des dernières années, il y a de la compétition quand même, c'est pas gagné d'avance, mais on souhaite qu'elle puisse faire briller son sport sur la plus grosse scène possible.
Et c'est vraiment difficile parce que dès que la nouvelle sort, on est crucifié sur la place publique et on doit se défendre, puis il n'y a pas personne qui nous croit. Alors, c'est vraiment difficile pour les athlètes. Hey, parlons un petit peu de volleyball. Il y a l'équipe masculine qui n'a pas été en mesure de passer au carré d'as. L'équipe s'est inclinée face à la Russie pour terminer cinquième, tout comme à Rio.
Exactement, c'est le même scénario, perdu en quart de finale contre la Russie en trois manches c'est Nicolas Haug qui parlait après le match aujourd'hui. Il disait, après la défaite à Rio, on s'est tous rassemblés en dehors du stade ou de l'aréna où était disputé le volleyball, puis il y avait des anneaux olympiques qui étaient là. On s'était réunis, l'équipe, ensemble, puis on s'était dit, on va les repogner à Tokyo en quart de finale, puis on va leur montrer. Et c'est exactement le même affrontement qui est arrivé. Le match a été extrêmement serré. La deuxième manche est allée en prolongation. Ça s'est terminé 30-28 pour la Russie, où les représentants de la communauté olympique, du comité olympique russe, comme les gens du CIO veulent qu'on dise, c'est trop long, on dit Russie.
Oui. Et puis, c'est ça.
C'est un programme, là, et puis justement, c'est la fin d'une époque pour Volleyball Canada, parce que Glenn Hogue, qui est incidemment le père de Nicolas, qui était l'entraîneur-chef, qui était le directeur du programme depuis 2006, presque non-stop, là, il a pris une pause de 2 ans après les Jeux de Rio. C'était son dernier match à la tête du Canada, et tous les joueurs qui sont passés dans la zone mixte nous disaient à quel point ils auraient voulu gagner une médaille olympique, pour eux, évidemment, mais aussi pour Glenn Hogue. Hogue a donné ses lettres de noblesse au volleyball canadien. Si l'équipe masculine est une puissance mondiale, maintenant elle est dans le top 10 mondial depuis quelques années déjà, c'est grâce aux bases qu'a établi Glenn Hogue à son arrivée en 2006, le recrutement qu'il a fait, et vraiment le volleyball canadien est passé à la vitesse supérieure grâce à Glenn Hogue. Il va se concentrer sur sa carrière au niveau professionnel. Il dirige un club en Turquie. D'ailleurs, son fils a signé un contrat avec ce club-là. Il va le rejoindre pour la prochaine saison. Mais c'est vraiment la fin d'une époque pour le volleyball canadien. Puis on espère que le départ de Glenn Hogue ne fera pas replonger le volleyball où il était avant son arrivée.
Glenn Hogue, c'est pas un ancien entraîneur du Rouge et Or de l'Université Laval?
Écoute, c'est possible. Je sais qu'il a aussi dirigé en France avec l'équipe nationale, parce qu'il nous racontait que c'est un peu comme ça qu'il a eu le poste au Canada. Parce que quand je dirigeais pour la France, c'est moi qui étais responsable d'établir le plan de match puis qui faisait la vidéo. Fait que je regardais tous les matchs du Canada puis tous leurs défauts, je les connaissais. Fait que j'ai été capable de leur mettre le doigt dessus quand il est venu le temps de me vendre pour le poste.
OK. Bon, tu vois, le calcul vaut le travail.
Merci beaucoup, Frédéric. C'est gentil.
Hey, bonne fin de journée à vous, puis on se reparle demain avec peut-être des bonnes nouvelles pour Laurence-Vincent Lapointe.
Oui, on l'espère bien. Hey, merci Frédéric, à demain.
Merci, au revoir.
Frédéric Daigle, journaliste sportif à la presse canadienne.